à avoir remporté la finale du Masters féminin WTA. Bien sûr, c'est du tennis, la deuxième, après Amélie Mauresmo. Il est midi et 10 minutes ici.
90.10.
Et midi 10 sur la clé des ondes, tout de suite le plat de résistance. Bienvenue dans notre plat de résistance. On va parler dans les 50 minutes qui viennent de la mobilisation contre les bassines qui a eu lieu le 29 octobre dernier dans les Deux-Sèvres. On parlera musique et cinéma avec le festival Musique à l'écran. Et puis on parlera d'Herman Daly, père de l'économie écologique dans les clés de l'écho. Le plat de résistance, c'est notre émission d'actualité locale, sociale, écologique sur la clé des ondes tous les jours de midi 10 à 13h et on commence tout de suite avec quelques infos en bref. Ça fait 2 semaines que les agents des services hospitaliers ASH de la clinique du Tondu à Floirac sont en grève. Elles demandent des revalorisations de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail puisque malgré l'image des cliniques privées qu'on peut avoir, le personnel non médecin est souvent moins bien rémunéré que dans l'hôpital public avec des salaires qui vont du SMIC pour les agents des services hospitaliers à 1 700 € pour les infirmières. Alors une cagnotte a été lancée pour les soutenir sur la plateforme Litchi pour soutenir leur grève donc qui dure depuis maintenant 15 jours. Aujourd'hui, une réunion avec la direction doit avoir lieu et on essaiera d'en savoir plus et de vous faire entendre surtout leurs témoignages dans la semaine dans cette émission. Aujourd'hui également à Bordeaux se réunit le conseil municipal avec à l'ordre du jour 2 sujets principaux. Le programme de promotion de l'accès au droit Bordeaux Terre de Solidarité, c'est son nom, qui doit être présenté par Harmonie Le Cerf, qui est adjointe chargée de l'accès au droit. Et puis également la politique écologique avec d'une part le rapport de transition écologique et sociale pour 2022 qui va être présenté au conseil municipal et puis des mesures de sobriété et de végétalisation qui doivent être également présentées. Voilà, tout ça c'est à suivre en direct sur le site de la mairie à partir de 14h aujourd'hui. Également dans les informations, le cardinal Jean-Pierre Ricard, ancien archevêque de Bordeaux et figure de l'Église en France, puisqu'il était notamment proche de l'ancien pape Benoît XVI, qui a reconnu avoir exercé des violences sexuelles sur mineurs lorsqu'il était curé à Marseille, c'était il y a 35 ans. Il reconnaît partiellement ces faits en parlant d'une conduite répréhensible. C'est ce qu'a annoncé en tout cas hier la conférence des évêques de France, avec au total 11 évêques ou anciens évêques mis en cause. Ces témoignages auraient été transmis à la justice et au Vatican sans qu'on sache pour l'instant quelles suites y seront données. Et puis on termine avec une enquête à lire sur le site disclose.ngo. Ça s'appelle « Pétrole, les paradis fiscaux, les intérêts cachés de la ministre de la Transition énergétique ». Disclose révèle que Agnès Pannier-Runacher est liée via un montage juridique à la société Arjunem, créée par son père, qui est un des dirigeants historiques de Panenko, deuxième producteur français de pétrole brut après Total Energy. Vous voyez comment ça sent bon tout ça. Jean-Michel donc Runacher, qui aurait, selon Disclose, fait une dotation à ses petits-enfants via cette société Arjunem. Une dotation en tout cas l'entrée au capital de ses enfants qui aurait été signée par la ministre. Pour l'association Anticor, ça ne fait aucun doute que la ministre est dans une situation de conflit d'intérêts. Elle aurait dû déclarer, selon Anticor, la société dès sa nomination en 2018, ce qu'elle n'a jamais fait. Bref, voilà une affaire de montage juridique à lire de manière détaillée dans l'enquête de Disclose sur son site, donc disclose.ngo. Alors les 29 et 30 octobre derniers, plusieurs milliers de manifestants se sont retrouvés à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, un événement qui a beaucoup fait parler dans les médias et a permis de populariser cette lutte contre les méga-bassines, ces cratères de plusieurs hectares creusés pour pomper et stocker de l'eau l'hiver afin de l'utiliser l'été dans l'agriculture intensive en besoin d'eau surtout. Alors Sylvie, qui est animatrice de l'émission Climat de lutte, était sur place et elle a réalisé un reportage qu'on écoute tout de suite.
Pas moins de 150 organisations avaient appelé à cette rencontre pour dire pas une bassine de plus, pour exiger de nouveau l'arrêt du chantier de Sainte-Soline et surtout un moratoire sur l'ensemble des autres projets de méga-bassines. Il y en a 16 en Deux-Sèvres et il y en a une trentaine dans le bassin du Clain, dans la Vienne. Vous entendrez ensuite quelques extraits sonores de la marche vers la bassine qui a eu lieu l'après-midi, une marche symbolique appelée « prise de la bassine » qui consistait seulement en fait à s'approcher de ce cratère gigantesque de 16 hectares. Mais voilà la préfète des Deux-Sèvres, aux ordres d'un ministre de l'Intérieur qui ne connaît que la répression, avait décidé d'interdire cette marche et de menacer quiconque souhaiterait y participer. Ce qui n'a pas empêché près de 8000 personnes de converger petit à petit vers ce village à la limite de la Vienne et des Deux-Sèvres dès le mardi 25 octobre dans un champ prêté par un paysan non irrigant. L'ambiance était surchauffée au début de la conférence de presse par l'annonce de la victoire en justice des militants de la Clusaz dont nous avons déjà parlé sur cette antenne. Eux aussi sont opposés à un projet de bassine, une bassine pour faire de la neige artificielle puisqu'il n'en tombe plus assez du ciel. Le tribunal administratif de Grenoble venait de suspendre mardi 25 octobre l'arrêté du préfet de Haute-Savoie validant la réalisation d'une cinquième retenue collinaire à la Clusaz. On écoute quelques extraits de cette conférence de presse introduite par Benoît Feuillu des Soulèvements de la Terre.
Ambiance surchauffée en ce début de conférence de presse par l'annonce de la victoire en justice des militants de la Clusaz, eux aussi opposés à un projet de bassine.
C'est une des premières choses qu'on m'a appris cette semaine en arrivant ici, qu'elles avaient gagné une année de plus à la Clusaz à repousser le projet de retenue d'eau, de bassine pour la neige artificielle à la Clusaz. Et j'ai l'impression que ça nous a donné une force sur l'ensemble de la semaine. Voilà, moi je fais partie des Soulèvements de la Terre. Je vais juste
Benoît Feuillu, des Soulèvements de la Terre.
C'est qu'on laisse la parole à un certain nombre d'organisations qui se sont engagées assez fortement dans cette mobilisation. Pas toutes, encore une fois, parce qu'il y en a 150, mais que ça fasse un peu un panel représentatif entre des syndicats, des paysans, des élus, Bassine non merci, les Soulèvements de la Terre. Ça vous donne une idée. Évidemment, on pourra répondre ensuite à des questions avec aussi d'autres représentants de ces organisations par la suite. Et juste pour toucher un mot d'introduction et de contexte sur cette semaine, on s'est retrouvé dans une situation, vous voyez, où on est dans une montée en puissance d'un mouvement qui est devenu extrêmement symbolique sur la question de la défense de l'eau, de son partage, face à un modèle agro-industriel qui s'accapare l'eau dans une situation qui est devenue dramatique en termes climatiques, en termes de sécheresse, et on est face à un gouvernement qui passe en force. Ça fait un an qu'on mène des mobilisations de plus en plus importantes pour stopper les chantiers de méga-bassines. Ça fait un an maintenant qu'on est dans une situation où on doit en venir, y compris à accepter la question de la désobéissance civile pour empêcher ces projets. On considère que quand il y a des crimes qui sont faits contre la terre, contre l'eau, et ben qu'on est dans des nécessités d'assumer des formes de mobilisation où on se doit d'arrêter des chantiers. C'était l'objectif clair et affiché de la mobilisation d'aujourd'hui. On s'était dit, si le gouvernement entreprend un nouveau projet de méga-bassine, il a entrepris le plus gros projet de méga-bassine existant ici à Sainte-Soline, on les arrêtera. Lundi, la préfecture a dit « on ne vous laissera pas manifester, arrêtez liberticide, on ne vous laissera pas vous approcher de la bassine ». Il s'est trouvé qu'on est arrivé mardi sur ce terrain, en plein cœur de la zone interdite, ce qui était assez incroyable. On est arrivé en convoi de 30 véhicules. Ce qui était quand même, c'était un énorme pied de nez à la préfecture. À ce moment-là, elle avait déclaré la veille, vous ne pourrez pas manifester. Le lendemain, on arrive au Monde des Chapiteaux, le lendemain soir, au cœur de la zone interdite. Et pourquoi? Et là, je vais vous demander des acclamations quand même, je dis à tout le monde, même dans un cadre de conférence de presse. C'est parce que un agriculteur à qui appartient ce champ qui était irrigant, qui était dans la coppe de l'eau, a décidé de changer de modèle. Il s'est rendu compte que les bassines, c'était pas possible, que c'était pas un modèle soutenable du tout. Voilà, c'est Philippe, il vous parlera mieux que moi de pourquoi il refuse aujourd'hui ce modèle de bassine, de pourquoi il a changé, de pourquoi c'est possible de changer de modèle agricole, mais on le remercie infiniment. Voilà, toute la semaine, la préfecture, pour faire baisser artificiellement le nombre de manifestants, créer un climat anxiogène, n'a pas cessé de répéter qu'il ne serait pas possible de manifester, qu'il y aura un dispositif policier démesuré.
On écoute ensuite Mélissa du collectif Bassine Non Merci.
Alors, il faut savoir que le collectif Bassine Non Merci, c'est un collectif citoyen composé d'associations, de partis politiques, de syndicats, de mouvements, de différentes organisations. Et c'est bien ce front commun, et vous êtes la preuve aujourd'hui ici de cette force et de cette puissance de ce mouvement. On ne serait rien si on n'était pas là tous ensemble et avec les organisations que vous représentez toutes et tous, avec la diversité de nos modes d'action et la complémentarité de nos modes d'action. C'est un combat qu'on mène depuis 5 ans, mais c'est un combat qui se mène depuis bien plus longtemps, et Benoît sera à côté de moi, sera en capacité de pouvoir en témoigner. Mais voilà, après tous les recours qui ont eu lieu, que ce soit sur le terrain juridique, sur le terrain politique, ils essayent en effet de passer en force. Pour centraliser sur le projet de 16 bassines, enfin, on se mobilise aujourd'hui contre les projets de 16 bassines ici, et notamment la bassine de Sainte-Soline, qui est la plus grosse bassine du projet. C'est 720 000 mètres cubes de mètres cubes d'eau sur 16 hectares, avec 18 km de canalisation qui vont ensuite fournir cette eau aux différentes exploitations. Ça va concerner que 12 exploitations sur le territoire. Sachant qu'aucune de ces exploitations n'est en conversion en agriculture biologique et qu'aucun n'a fait un engagement de réduction de pesticides ni installé en termes de maraîchage, etc. C'est vraiment, on lutte vraiment contre un projet d'accaparement d'eau. Et si on ne veut pas que ça se fasse ici, c'est aussi parce qu'on ne veut surtout pas non plus que ça se fasse ailleurs. Là, c'est clairement aussi un choix de société que l'on fait par rapport au modèle agricole. Parce que c'est vraiment ça, là, on cautionne l'agro-industrie par ces projets-là. Et je vais laisser la parole à Nicolas qui sera la meilleure personne pour en parler.
Donc Nicolas, je suis le porte-parole de la Confédération Paysanne. Et oui, nous aussi, on est hyper enchantés d'être là avec vous pour lutter contre les projets de méga-bassines. Et on ne va pas lâcher l'affaire, on sera là à chaque fois, ça c'est une certitude. Pourquoi on est là, nous les paysans? Alors on n'arrête pas de me poser la question là toute la semaine. C'est des paysans qui luttent contre d'autres agriculteurs. Vous luttez contre votre camp. Non, absolument pas. Le message qu'on essaie de faire passer, c'est que les méga-bassines, comme d'autres choses, comme les fermes-usines, comme les OGM, comme les pesticides de synthèse, sont les outils de l'agro-industrie. Les outils de l'agro-industrie qui font disparaître les paysannes et les paysans année après année. Et on a l'impression qu'on n'a pas compris ça. Ça fait 30 ans, un peu plus de 30 ans que la conf existe. À chaque fois, on lutte contre la disparition des paysans. On prône une agriculture paysanne qui permette de remettre de l'autonomie dans nos pratiques, qui permette d'avoir une alimentation de qualité accessible à toutes et tous. Et puis, en face de ça, on a une agro-industrie qui fait disparaître les paysans. En 30 ans, on a divisé le nombre de paysans par 3. Et c'est le fait de l'agro-industrie. Hier, on était mobilisés avec les camarades de la conf au port de la Palisse, à La Rochelle. Alors c'est aussi le symbole ultime de l'agro-industrie. C'est-à-dire que ce qu'on cultive ici, ça part en partie au port de la Palisse. C'est une agriculture agro-exportatrice qui va totalement dans cette logique-là et qui nourrit finalement juste les grosses coopératives, juste l'agro-industrie, mais qui ne nourrit pas les paysans, qui ne vous nourrit pas non plus. Donc la logique, elle est pour nous tout à fait présente de lutter contre les méga-bassines parce que c'est quelque chose de mortifère pour les paysannes et les paysans, de mortifère pour nos territoires. Donc plutôt que de faire ça, plutôt que de mettre de l'argent massif public dans les méga-bassines, on aurait tellement mieux à faire de mettre de l'argent pour rénover nos pratiques agricoles, aller vers une agriculture paysanne qui permette de mettre l'eau dans les sols. C'est là que l'eau doit être.
On écoute maintenant Lisa Bellico, députée de la première circonscription de la Vienne, ELV.
Et pourquoi c'est moi qui parle aujourd'hui? Parce que sur la première circonscription de la Vienne, il y a le bassin du Clain. Et sur le bassin du Clain, la préfecture essaye de passer en force pour faire accepter 31 mégabassines. Le combat ici, c'est le combat pour tous les autres départements, pour tout le reste de la France, pour si on gagne ici, et j'espère qu'on va gagner, je sais qu'on va gagner, et ben on arrêtera tous les autres projets. Et donc c'est vraiment, cette lutte, elle est symbolique, elle est hyper importante pour toute la France, et peut-être même plus largement. Vous l'avez peut-être vu passer, j'ai posé une question à la secrétaire d'État à l'écologie, Bérangère Couillard, qui a l'air de dire que les bassines, c'est pas automatique, c'est pas la panacée, il faut faire attention, il faut faire un projet de territoire avant, tout le contraire de ce que dit le ministère de l'Agriculture, donc c'est très intéressant, c'était une réponse très intéressante, j'attends qu'elle me donne plus d'éléments, je l'ai relancée, elle est censée me répondre par courrier sur des éléments plus précis, alors sur la Vienne, mais ça va sûrement concerner d'autres secteurs de méga-bassines. Et je trouve ça... Je voudrais lui rendre un petit hommage quand même, parce qu'elle a dû se faire remonter les bretelles en me répondant ça. Elle était un peu vexée quand je l'ai relancée pour avoir plus d'éléments, d'ailleurs. Mais c'est bien, elle a tenu une position d'écologiste, en fait. Elle a dit, les bassines, c'est pas une solution. Donc appuyons-nous sur ça, les bassines, c'est pas une solution, c'est pas la solution pour maintenir l'agriculture. Donc nous, on insistera au niveau national, on portera cette position... On luttera pour que les méga-bassines, ça soit plus possible, que ça soit en tout cas plus possible sans projet de territoire, puisqu'on sait que si on fait un projet de territoire pour la gestion de l'eau, ça marche pas. Hein, quand on prend en compte tous les usagers de l'eau, on se rend bien compte qu'on peut pas faire de méga-bassines, ça marche jamais. Donc en fait, il suffit de prendre les choses dans le bon sens, de regarder qui consomme pour quel usage, l'eau potable d'abord, et on verra que les méga-bassines, c'est pas une solution pérenne, c'est pas une solution d'avenir dans un contexte de changement climatique.
On écoute enfin Manon Meunier, députée France Insoumise.
Bonjour
de la Haute-Vienne.
Je suis vraiment heureuse d'être là et surtout heureuse de voir à quel point on est nombreuses et nombreux. Bravo à vous pour cette belle mobilisation, parce que clairement, c'est pas juste avec l'hémicycle qu'on va s'en sortir. On a réellement besoin d'une mobilisation sur le terrain en plus, ça ne vous aura pas échappé. Qu'on est minoritaire. Donc effectivement, on essaye de se battre comme on peut. Hein. Lisa a effectivement posé une question à Bérangère Couillard, donc secrétaire d'État à l'écologie, qui semble répondre favorablement. Mais plus récemment, vous avez peut-être entendu notre cher ministre de l'Environnement, Christophe Béchu, qui disait... Donc ne vous inquiétez pas, il a dit que les bassines ne posaient aucun problème pour l'environnement. Donc nous on se pose un peu la question quand même, parce qu'on a un peu l'impression que les bassines, comme plein d'autres projets industriels, c'est plutôt un pansement, si vous voulez, qu'on essaye de mettre temporairement sur un problème, et qui en réalité va plus aggraver encore plus le problème et appuyer sur l'accélérateur alors qu'on est en train de foncer dans le mur. Il faudrait investir plutôt dans la transition écologique de notre agriculture, et d'ailleurs arrêter d'opposer écologie et agriculture, parce qu'en réalité, les agriculteurs remplissent des fonctions absolument extraordinaires dans nos paysages. Les petits paysans même sont les garants d'une certaine biodiversité qu'on connaît, de certains oiseaux qui sont liés à des paysages qui sont permis par nos petits paysans, qui respectent le bocage, qui respectent justement les sols, parce que c'est aussi en entretenant nos sols, en y mettant de la matière organique, qu'on stocke l'eau. Et donc c'est ici qu'il faut investir finalement, c'est vers cette transition, c'est accompagner l'agriculture. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas une agriculture intensive, comme dirait Marc Dufumier. Ce qu'on veut, c'est une agriculture intensive, oui, mais intensive en emploi. Et il faut qu'on réussisse à bifurquer l'agriculture en orientant plutôt les aides vers l'actif, plutôt qu'on le fait actuellement vers l'hectare, pour que justement on puisse faire une agriculture à échelle humaine qui respecte son écosystème et qui en réalité, parce que l'écosystème il nous a pas attendu pour vivre et utiliser l'eau correctement, et si on réussit à revenir à une échelle humaine et au respect de l'écosystème, agriculture et écologie se marient parfaitement. Et aussi dans notre niche parlementaire à la France Insoumise qui arrivera en novembre, on va avoir une proposition de loi sur justement les premiers mètres cubes d'eau gratuits pour toutes et tous. Parce que les bassines, c'est ça que ça pose comme question, c'est comment on utilise l'eau, est-ce qu'on l'utilise comme un bien commun, est-ce qu'on la partage entre tous les usagers et justement avec notre environnement, ou est-ce qu'on la stocke dans un endroit qui en plus permet l'évaporation, donc qui est totalement contre-productif. Et nous, c'est ça qu'on va essayer de mettre à l'ordre du jour avec cette proposition de loi, même si on sait qu'elle ne passera jamais. En tout cas, pas en novembre, mais bientôt.
Un jour.
Mais continuer surtout voilà, à maintenir... maintenir la pression sur le terrain, parce que sans vous, nous on sert plus à rien. On essaye de porter la voix dans l'hémicycle, mais vous êtes vraiment la pression dont on a besoin sur le terrain, et nous on essaye de se faire juste votre porte-voix au niveau politique. Et encore merci pour votre mobilisation.
D'autres intervenants ont participé à cette conférence de presse, comme les deux responsables de syndicaux, Hervé Auguin de Solidaire 79 et David Godin de CGT de Sèvres, qui avaient déposé justement la demande d'autorisation de ce rassemblement. Les députés Loïc Prudhomme de la France Insoumise 33 et Benoît Biteau, eurodéputé vert, que nous avons entendu justement ce dernier dans notre émission du 13 octobre, et enfin, bien sûr, Julien Leguet de Bassy, non merci. On part maintenant pour l'après-midi de ce samedi et cette marche vers la bassine de Sainte-Soline.
Allez, fous feu à la forêt, ouais, du con. On est pas.
La marche s'était lancée en trois cortèges pour multiplier par trois les chances d'atteindre cette fameuse bassine. Nous étions derrière l'étendard rouge et le trajet se faisait à travers champs avec des traversées de routes départementales, souvent occupé par des voitures de la gendarmerie mobile. Nous retrouvons Baptiste, notre collègue.
Ah, ça va ? On a bien couru ?
Il y a la départementale
en fait. On a pris une buffée, mais bon, ça va.
Là, on a échappé quand même au premier barrage. Ah, il faut s'arrêter.
En manif, on dépasse ses peurs. J'avais peur des feux d'artifice, des bruits de pff, comme ça. Depuis que je fais des manifs, je n'ai plus peur.
Ah, c'est bien.
Donc bon.
Enfin, faut rester méfiant quand même.
T'as
hein.
Un mal pour un bien. Oui, faut rester méfiant, bien évidemment.
Allez, les gars, on est courageux.
Nous sommes dans un nuage épais de gaz lacrymogène.
Allez, faut aider à tirer.
Non, mais... Voilà, il y a un fossé qui fait...
Fais gaffe, on a un trappé là.
Là, on vient de passer la dernière route.
Ça passe facile.
Bon, alors, il y a des cordons, mais ils sont derrière nous maintenant. C'est tout l'avantage, enfin, pour l'instant. Et la bassine devant nous.
Un
droit. La cible, elle est là.
C'est chaud là, hein?
Ouais, c'est très chaud.
Même les reporters de guerre, ils sont pas où est la clé des ordres aujourd'hui. Ouais.
Ça vient derrière, c'est vite.
Putain. C'est du désencerclement, ça? Bon, on est sur la bassine, ça y est. On a réussi à passer les barrières, on en sent mal.
Ah, blessé, allez. Allez, bouge. Ça va aller, ça va aller. C'est bon, allez.
Les manifestants sont ressortis du cratère de la bassine à travers un épais nuage de gaz lacrymogène. Ils ont rejoint rapidement les autres cortèges qui, eux, n'avaient pas pu pénétrer sur le cratère, mais qui n'étaient pas loin. Et ensemble, ils ont fêté la prise de la Bastille. Allez. 90.10, la clé des ondes, vous écoutez Climat de lutte.
Vous l'avez entendu, c'est donc un dispositif de maintien de l'ordre ahurissant qui a fait face aux manifestants, pas moins de 7 hélicoptères, plus de 1700 forces de l'ordre, un dispositif dont le coût est estimé à plus d'un million d'euros. 4 personnes ont été placées en garde à vue, elles étaient dans différents cortèges et ont été interpellées de manière tout à fait aléatoire. Elles seront jugées le 28 novembre au tribunal de Niort. Dans un communiqué, les organisateurs ont déploré les violences qui ont occasionné des dizaines de personnes blessées du côté des manifestants, parfois sérieusement, par différentes armes, dont cette fameuse grenade GM2L, officiellement classée comme arme de guerre, qui remplace la tristement célèbre Gli F4. Près de 200 grenades ont été ramassées le lendemain sur le terrain. Les munitions tirées avec des fusils Cougar explosaient en l'air, au-dessus des têtes ou au milieu de grappes de manifestants et de manifestantes. Dans les champs, elles soulevaient des mottes de terre en rafale. Plusieurs manifestantes ont été touchées par des tirs de LBD, sans compter tous ceux qui sont atteints d'acouphènes dus aux grenades assourdissantes. L'État français, dit le communiqué de presse, n'hésite pas à prendre le risque de voler des vies pour faire perdurer le saccage de l'environnement, comme il l'a fait avec Rémi Fraisse, à Sivens. Ce déchaînement violence avait pour but de semer la peur, voire la haine chez les téléspectateurs. Néanmoins, les manifestants ont accompli le tour de force de déjouer le dispositif policier à plusieurs reprises. Ils ont atteint leur pari de pénétrer sur le chantier et de le faire suspendre pour l'instant. Et surtout, on ne compte plus les reportages en tout genre expliquant ce qu'est une méga-bassine, pourquoi les scientifiques, comme les militants écologistes, estiment qu'elles ne sont pas une solution, mais au contraire, un problème.
Voilà ce reportage de Sylvie dans l'émission Climat de lutte diffusée jeudi dernier. Merci beaucoup à elle. Et puis je signale juste que malheureusement, la COP de l'eau, donc la société qui organise ces travaux de bassine, a annoncé dans un communiqué que les travaux à Sainte-Soline avaient repris ces jours-ci. Voilà l'info. Et sans transition sur notre plat de résistance sur la clé des ondes, on passe au cinéma avec le festival musical Écran qui a commencé hier lundi. On réécoute l'interview de son programmateur déjà diffusée il y a 2 semaines à notre antenne. Le festival musical écran a lieu à Bordeaux cette année, c'est la 8e édition du 7 au 13 novembre. On en parle avec Richard Berthoux qui est programmateur du festival et vice-président de l'association Bordeaux Rock qui organise ce festival. Bonjour Richard.
Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui.
Alors on va parler de ce festival et de la programmation très riche puisqu'il y a une trentaine de films qui vont être présentés, projetés. Juste avant, en deux mots, pour le rappeler, Bordeaux Rock c'est quoi ?
Alors Bordeaux Rock, c'est une asso qui va fêter son 19e anniversaire en janvier, qui avait été montée, pour ceux qui se souviennent, on avait édité un bouquin qui s'appelait Bordeaux Rock, comme par hasard, et on avait à cette occasion-là fait une compilation de tous les groupes des années 78 à 82, je crois, et on avait fait un concert à Barbet avec tous les gens encore valides et vaillants qui étaient remontés sur scène. Donc c'est parti de là, il y a 18 ans, un peu plus maintenant, et ça s'est jamais arrêté. Voilà, c'était une asso qui était au départ très spécialisée et qui le reste d'ailleurs sur le patrimoine, sur un peu ce qui s'était passé à Bordeaux évidemment, et qui a évolué à la fois avec des groupes nationaux voire internationaux, puisque là on vient de faire Brian Johnson Massacre avec Allez les filles ou les Dead Kay. Et puis des formes de musique un peu plus électroniques, évidemment, parce que les choses ont changé. Et au bout de 10 ans, on s'est dit, bah tiens, si on faisait un festival de documentaires de musique, pour justement essayer d'être un peu, élargir un peu les musiques. Musique du monde, musique black, enfin pas uniquement rock. Et donc, musique à l'écran est apparue et c'est une émergence à l'intérieur de l'asso et qui est maintenant, donc avec sa 8e édition, commence à voguer de ses propres ailes.
Alors, les documentaires musicaux, qu'est-ce que toi, comment tu vois ça ? Qu'est-ce que ça apporte en tant que fan de musique, de rock ou d'autres musiques, de voir des documentaires sur... Alors j'imagine qu'il y a plein de sortes de documentaires musicaux, plein de manières de faire des documentaires musicaux, mais qu'est-ce que ça amène ? En quoi c'est fun, c'est intéressant, ça apporte des infos, ça fait vibrer de voir ces documentaires musicaux ? Toi, comment tu vois ça ?
Ben pour moi, il y a plusieurs intérêts. L'intérêt majeur, et un peu celui qui nous a amené à faire ça, c'est de... Il me paraît de plus en plus urgent de replacer la musique dans un contexte, soit historique évidemment, soit géographique, soit des filiations entre des musiques ou entre des époques. Ce qui manque de plus en plus à mon sens, parce qu'on est dans une espèce de glooby-glooba infernal où tout pique tout, surtout avec le sample. Et donc ça me paraissait important de le recadrer, de dire voilà, ben, le mec écoute une playlist, qu'il ait une idée un peu de savoir si c'est des gens de son âge, de l'âge de son père, s'ils viennent d'Afrique du Sud ou de Suède, etc. Bon, ça me paraît fondamental. Après, il y a aussi le fait que je pense que la musique... à la fois à travers les gens qui la font et à travers la façon dont la musique est diffusée, comment elle se comporte à l'intérieur des sociétés, est toujours en avance. Je veux dire, elle est toujours en avance sur la façon dont elle est faite, la façon dont les gens survivent, la façon dont elle est distribuée. On l'a bien vu d'ailleurs avec la dématérialisation, ça a été le premier truc. Bon, maintenant le cinéma c'est pareil, mais c'était le premier truc qui a été touché, etc. Donc je veux dire, la musique est un peu un laboratoire permanent et expérimental des mondes. Et pas que occidentaux, puisque à travers beaucoup de documentaires, on a pu découvrir que les choses sont en train de muter énormément en Afrique, notamment, et dans des pays émergents, voire des pays du Sud, quoi. Donc je pense que la musique et le documentaire nous permet de comprendre pas mal de choses, quoi. À la différence de ce que je personnellement n'aime pas trop, c'est ce qu'on appelle les biopics, qui sont des films de fiction qui finalement font un peu l'économie d'un scénario en reprenant l'histoire d'un mec ou d'une chanteuse ou de quelqu'un, comme ça, en racontant sa vie de façon assez déformée. C'est pour ça que j'aime pas ça. Ou le concert aussi devant un film de fiction qui est encore une autre... je dirais, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est encore autre chose. Donc nous, on est vraiment spécialisés, quoi.
Oui, et où là, dans ce dont on parle, il peut y avoir un peu de starification et puis de recherche aussi monétaire derrière de la part des producteurs pour faire rentrer de l'argent. On parlait juste avant de la question de la difficulté qu'il pouvait y avoir à faire ces films ou à les projeter pour des questions de droit, souvent. C'est quoi l'industrie des documentaires cinématographiques ? Qui sont les réalisateurs, les réalisatrices ? Comment on fait et comment se fabriquent tous ces films-là ? Alors, si on peut faire des généralités, parce qu'il y a peut-être là aussi plein de différences, Richard Berthoud.
Oui, mais c'est sûr. Mais disons qu'en gros, on pourrait presque distinguer trois groupes, c'est-à-dire il y a les ce que j'appelle les gros documentaires, je sais pas, je pense à celui au Get Back sur les Beatles, réalisé par Peter Jackson, où là c'est une grosse histoire de pognon, parce que de toute façon les droits sur les morceaux sont excessivement chers, parce qu'il faut savoir que pour un droit peut très vite coûter 15 000 euros pour 5 ans et l'Europe. On a uniquement. Donc ça, c'est un peu ce qui est. Alors donc derrière, il y a des distributeurs, voire des majeures compagnies, voire des très grosses compagnies de cinéma. Après, il y a les plus petits documentaires qui essayent d'écrire différemment les histoires et de parler de choses plus générales pour essayer d'éviter l'écueil des droits musicaux. Et après, il y a carrément une troisième groupe, et nous, tous les ans, on est assez surpris de ça. C'est carrément, moi j'appelle ça les fans, les films de fans. C'est des mecs qui font ça sur la, alors chez eux quasiment, et ils passent 4, 5, voire plusieurs années de leur vie à compulser des documents, des interviews, à courir à droite à gauche, et ils sortent un film, et tous les ans il y a quelqu'un qui fait ça par exemple, quoi, et c'est vraiment des films de fans intégraux, quoi.
Alors, le Festival Musique à l'écran, il a lieu du 7 au 13 novembre à Bordeaux, Festival international de films, de documentaires musicaux. Il y a une trentaine de films. Ouais. Il y a trois prix qui vont être remis, prix du jury, prix du public et prix des lycéens, avec un jury professionnel. Et il y a des nouveautés cette année. Richard, tu peux nous en dire plus ?
Oui, alors la grande nouveauté, c'est que, comme je disais, on vole de nos propres ailes, donc, et comme aurait dit les standards dans une vieille chanson de rock bordelais, nouvelles chaussures, nouvelles voitures. Donc, on est maintenant au Théâtre Molière, qui a été longtemps la salle de l'Ohara, qui est 33 rue du Temple. Et on a une autre petite salle que nous près de la mairie, qui est la salle de l'Inox, ancien Onyx, qui est à Saint-Pierre, rue Ferdinand Philippard, à l'angle de la rue des Cabérans. Alors ça amène une grande nouveauté, c'est qu'on va passer les films deux fois. La séance avec les invités, si je puis dire, la séance officielle aura toujours lieu au Molière. Et il peut y avoir une rediffusion avant, ce qui est assez rare, ou après, à l'Inox, dans une plus petite salle. Donc si vous voulez voir les invités, soyez prudents, il faut toujours prendre la place au Molière. Sauf pour quelques films, notamment il y a un film sur le punk féminin à propos du groupe des Slits, qui lui passera qu'une fois à l'Inox, mais globalement c'est toujours comme ça. Et la deuxième nouveauté, c'est que le Molière est un très bel endroit où il y aura donc un lieu de restauration et un bar qui va être ouvert tout le temps. Où vous pourrez rencontrer le jury, les gens du festival, les invités, etc. Voilà, ça c'est la grosse nouveauté sur laquelle il faut se pencher si vous voulez réserver des places, soyez prudents et regardez bien le programme.
Mais donc du coup, le truc qui est dommage, c'est qu'il n'y a plus rien à Utopia.
Non.
C'est dommage.
Non, parce que c'est pas dommage dans la mesure où on a été obligés pour des tas de raisons, notamment pouvoir travailler en scolaire, c'est pour ça que ça nous a permis de faire ce prix des lycéens, avec un échange avec des lycéens de Riga. Et début septembre, c'est pas possible.
Riga en Lettonie, du coup.
Oui, absolument. Et c'était pas possible. Et comme le mois de novembre est une période dans laquelle ils peuvent projeter, pendant laquelle ils peuvent projeter énormément de blockbusters, de très gros films, ça les intéressait plus du tout de nous recevoir. Donc nous, faire le festival début septembre, ce qui nous imposait, parce qu'on fait d'autres choses avec Bordeaux Rock jusqu'à la fin juillet, donc on prenait pas de vacances, on pouvait pas faire de scolaire. Il y avait moins de monde parce que début septembre, il fait très beau et les gens font un peu ce qu'ils n'avaient pas fait en juin. Pour avoir des gens dans le jury, c'était compliqué. Et puis travailler en été, c'est logique, tout le monde est en congé, donc on perdait du temps, on avait pas de réponse. Donc il y avait tout ce genre de raisons qui faisaient qu'on ne pouvait pas continuer début septembre. Et ça n'a pas été possible de trouver un compromis avec eux. Donc c'est dommage, mais ce n'est pas faute de leur avoir de proposer, quoi.
Donc tu disais, il y a le Molière, l'Inox, et puis comme les autres années, la cour Mably aussi, dans laquelle il y aura des rendez-vous.
Oui, bah, comme tous les ans, c'est un peu le ce qu'on fait après les films, c'est un peu la caution festive du festival. Et notamment cette année, vu qu'on passe un film sur le projet de la Triple Alliance de l'Est, on va inviter Marietta et Ventre de Biche qui vont faire un live le samedi soir. Bon, le vendredi soir, il y aura une soirée bordel LGBT. Et le jeudi soir, on fait on fait passer Elvidoc qui fait un DJ set un peu de musique 60s. Et avant, il y aura un vidéo set, enfin même pas, puisque c'est des vieux films Scopitone des années 60. Donc on essaye d'avoir un peu, bon, vu qu'il y a un film sur les Beatles, il y a pas mal de trucs sur les 60, il y a un film Trump sur l'émergence, le tout début de l'émergence d'une scène LGBT spécifique dans le long des années 80, avec ce qu'on avait appelé les New Romantics. Et après, évidemment, mais le film, je disais, Triple Alliance de l'Est, qui est un collectif qui a démarré à Mulhouse et qui a regroupé des dizaines, voire des centaines de musiciens. Bon, je vous dis, Marietta étant un des plus connus et qui est co-réalisateur du film. Voilà. Donc c'est toujours un peu cette logique de montrer ce dont on parle, quoi.
Alors voilà, merci beaucoup à Richard Berthoud, programmateur du Festival Musical Écran. Les séances pour aujourd'hui, il y a des films à partir de 17h45. American Rap Star, The Conductor, Sea Sirens, Pawn, Computer Accent et Triple Alliance. Voilà le programme donc de ce Festival Musical Écran pour ce soir. Et on continue dans notre plat de résistance avec tout de suite la chronique Les Clés de l'écho.
Le désarroi de parents découvrant que leur ado est de droite et qu'il adhère aux éditos de Dominique Seul.
Il n'y a pas d'alternative avec la réalité.
Il n'y a pas d'autre choix.
Il n'y a pas d'alternative.
Ça passe pas bien, ça, cette idée-là.
Et cette semaine, pour Les Clés de l'écho, on est avec Félix Garnier. Bonjour Félix.
Bonjour Baptiste, comment
alors,
ça va?
Ça va bien, et toi, je rappelle juste au passage que tu es doctorant en économie à l'université de Bordeaux et qu'aujourd'hui tu voulais nous parler de Herman Daly, tu vas nous expliquer, mais qui est le père de l'économie écologique.
Exactement. Du coup, merci d'avoir posé la question, moi ça va très bien aussi, merci. Enfin, depuis ma dernière chronique, j'ai quand même appris une terrible nouvelle, un décès. Alors pas celui d'un proche, heureusement, mais celui de quelqu'un de super important pour moi et pour beaucoup d'autres. Et cette personne, c'est Herman Daly, qui est décédé le 28 octobre 2022. Est-ce que tu connais, toi, Herman Daly ?
Eh bien, avant que tu m'en parles, je ne connaissais pas du tout.
Eh bien voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, ça me semble important. Et je précise donc que cette chronique est donc dédiée à Herman Daly en sa mémoire. Alors, dressons un peu le portrait du personnage. Herman Daly, il est né le 21 juillet 1938 au Texas. Jeune économiste, il va s'intéresser aux questions de pauvreté et de développement en Amérique latine, en particulier au Mexique et en Uruguay. Toutefois, une rencontre va profondément l'impacter et changer la direction de sa carrière. Il s'agit de Nicolas Georgescu Rojen, un autre économiste, qui finira par devenir son directeur de thèse.
Que je connais, lui, pour le coup.
Parce que, au-delà des positions prestigieuses que Herman Daly a pu occuper, professeur émérite de l'Université du Maryland, ancien économiste en chef de la Banque mondiale, Herman Daly, c'est avant tout une pensée écologique profonde. Et aujourd'hui, il est considéré comme l'un des pères de l'économie écologique. Daly est dans la lignée de Nicolas Georgescu Rojen dans sa manière de penser. Comme lui, il considère que l'économie est un sous-système du système Terre, plus largement. Et donc, l'économie, comme le reste de la nature, est soumise aux lois de la physique, et en particulier à la première et à la seconde loi de la thermodynamique. Alors si, comme moi, vos cours de physique sont un peu loin, ça revient à dire deux choses. Premièrement, quelles que soient les transformations qu'on leur fait subir, l'énergie et la matière sont toujours présentes en même quantité dans un système. Et deuxièmement, elles perdent en qualité à chaque utilisation. C'est un phénomène qu'on appelle l'entropie. En d'autres termes, plus on utilise de la matière et de l'énergie, plus il devient difficile, globalement, d'en utiliser davantage. Prenons l'exemple d'une planche qu'on va travailler pour une charpente. En la taillant, on va générer deux choses, de la chaleur, avec l'effort qu'on va produire, et de la sciure, qui est les copeaux de bois, les résidus de bois qu'on est en train de tailler. Dans les deux cas, on transforme l'énergie, on transforme le bois, il reste la même quantité, mais bon courage pour utiliser l'énergie que tu as transformée en chaleur en taillant ta planche et pour réutiliser la sciure pour construire une nouvelle poutre. Cette intégration de l'entropie dans l'économie, elle a une conséquence majeure. La poursuite de la croissance de la production économique, à long terme, est vouée à l'échec, justement parce qu'on a de moins en moins d'énergie et de moins en moins de matière disponible. Il faut donc Éviter d'organiser la société autour de cette croissance, ce serait une orientation qui serait extrêmement dangereuse et vouée à l'échec. Daly propose donc d'organiser la société autour de ce qu'il appelle un état stationnaire. L'objectif est triple. Maintenir constant la population des pays et la quantité de capital manufacturé. Minimiser le métabolisme de nos économies, c'est-à-dire la quantité de matériaux et d'énergie nécessaires pour satisfaire nos besoins à toutes les étapes. Et enfin, s'assurer que tout le monde ait accès au nécessaire pour vivre dignement. Chez Daly, l'économie est donc plus proche de la biologie ou de l'écologie scientifique que de la physique mécaniste, qui est jusque-là la vision de référence en économie. Ce changement de paradigme va inspirer le reste de sa carrière. Désormais, Herman Daly va consacrer la quasi-totalité de son travail à développer sa vision et à faire de l'étude des flux d'énergie et de matériaux, ainsi que de leur utilisation, l'objectif de la science économique. Et en ça, bien plus que son ancien directeur de thèse Georgescu Rejeune, il est l'un des pères de l'économie écologique moderne. Comme lui, les économistes écologiques analysent les interactions entre l'économie et l'environnement et essayent de résoudre les incompatibilités entre la préservation de l'environnement et sa nécessaire dégradation par l'activité économique. Alors certes, l'état stationnaire de Daly, il n'est pas parfait. Il s'est souvent pris la tête avec Georgescu Rejeune à ce sujet, le second arguant que le modèle du premier ne résolvait pas les questions d'entreprise à long terme et qu'il ne discutait pas, du coup, de la réduction du métabolisme nécessaire avant d'atteindre l'état stationnaire. Daly, en bon joueur, le reconnaissait volontiers, mais était ouvertement moins radical que son ancien mentor sur la question de la décroissance. Alors certes, Herman Daly n'était pas un révolutionnaire, mais voilà. Si aujourd'hui vous avez déjà entendu parler de notions comme l'état stationnaire justement, ou comme la décroissance, si vous avez déjà entendu parler de l'économie du donut de Kate Raworth, du rapport Meadows et des limites de la croissance, ou même de notions qui semblent aujourd'hui super bateaux comme le développement durable ou la soutenabilité forte, bah c'est en grande partie grâce aux travaux d'Herman Daly et à ceux de ses successeurs. Le 28 octobre 2022, un grand économiste, un grand penseur de l'écologie nous a quittés. Alors aujourd'hui, demain et tous les autres jours en fait, faisons honneur à sa mémoire. Que vous défendiez ou pas son idée d'état stationnaire, nous continuons à défendre une économie différente, soucieuse à la fois des humains et du reste de la nature.
Merci beaucoup Félix Garnier. On sait maintenant qui est ce monsieur Daly et on espère que comme toi, il y aura beaucoup de gens à continuer à poursuivre cette voie dans la recherche en économie. Ta chronique, elle est à réécouter en podcast sur laclédesondes.fr et également sur la plateforme Spectre. On termine ce plat de résistance sur la clé des ondes avec un agenda qui nous a été envoyé par nos camarades et voisins du collectif Bordeaux Nord qui œuvre pour la culture dans les quartiers nord de Bordeaux et notamment qui réalise un agenda complet des activités culturelles dans nos quartiers. On écoute tout de suite cet agenda réalisé par Jennifer.
Bonjour aux auditeurs de la Clé des Ondes. Le collectif Bordeaux Nord vous informe de l'actualité culturelle de cette semaine sur les quartiers nord de Bordeaux. Commençons par le quartier Chertron Nord. Mercredi 9 novembre, à partir de 15h30, l'espace de vie sociale Chantelude, situé au cœur de la RPA Chantecrie, propose à ses adhérents une rencontre intergénérationnelle autour du jeu en tout genre. Il n'est pas trop tard pour adhérer. Sur le quartier de Bacalan, jeudi 10 novembre à 15h, sortie de résidence du spectacle Épopée de la compagnie El Destino au théâtre Le Cerisier. À partir du vendredi 11 novembre, le théâtre du Pont Tournant propose en exclusivité le spectacle Les Lettres de Montmoulin, joué par le comédien Philippe Cobert lui-même. Vendredi 11 novembre, à partir de 20h, l'école du cirque de Bordeaux vous invite à participer à la nuit du cirque. Vendredi 11 et samedi 12 novembre, à partir de 16h30, les Vivres de l'Art célèbrent la fameuse fête des morts mexicaines El Día de los Muertos. Samedi 12 novembre, à 19h30, le théâtre Le Cerisier vous propose un spectacle de théâtre à partir de 13 ans, 2019, de la Compagnie des Colombes. Sur le quartier du Lac, mercredi 9 novembre à 10h30, la ludothèque Interlude met en place un atelier d'art plastique pour les 3-6 ans. Et pour finir, sur le quartier du Grand Parc, mardi 8 novembre à 18h, la salle des fêtes du Grand Parc accueille l'œuvre « Encore heureuse », pièce de théâtre, exposition de portraits et récits de femmes vivant avec le VIH. Jeudi 10 novembre à 16h30, le centre social du Grand Parc invite les personnes ayant une pratique artistique amateur ou une passion à venir la partager avec d'autres. Jeudi 10 novembre toujours, le collectif Bordeaux Nord, nous-mêmes, organisons un petit couche-tard. Alors qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un rendez-vous culturel familial où les parents et les enfants vont voir le même soir, chacun de leur côté, un spectacle. La soirée enfant se déroulera au centre d'animation du Grand Parc avec une exploration musicale et participative de ricochets sonores. Et la soirée des parents aura lieu à la salle des fêtes du Grand Parc avec le concert de musique basque du groupe Calacan. Nous vous donnons rendez-vous à partir de 19h30 au centre d'animation du Grand Parc. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt sur bordeauxnord.org.
Merci beaucoup Jennifer pour cet agenda de Bordeaux Nord. Et on arrive à la fin de ce plat de résistance. Juste après, dans une minute ou deux, c'est Histoire de voir, Histoire au pluriel, Jean-Pierre avec ses invités gilets jaunes qui vont parler de ce mouvement, de ses suites, de ses restes et de son anniversaire. On se retrouve pour notre part demain à 12h10 pour une nouvelle émission du Plat de Résistance. La suite de nos programmes aujourd'hui, ce sera à 17h au Bord des Corps sur la culture, et puis ce sera également à 19h la voix off, et à 21h Radio Biche, l'émission hip-hop de la Clé des Ondes. Fadeso, Egakota, Mobaleti, Aziawe.